Il est 9h22 minutes. Aujourd'hui, se tient à Drummondville un colloque sur la douance en éducation, un colloque qui va réunir 225 personnes. Ça inclut des directions d'école, des enseignants, des psychologues, neuropsychologues, des conseillers pédagogiques, également des parents qui bien souvent doivent se battre pour que des enfants qui sont doués davantage que les autres, puissent avoir des services à la hauteur de ce qu'ils ont besoin. Pour en parler, Isabelle Bruneau est directrice des services pédagogiques à l'Académie Sainte-Thérèse, qui est une école primaire et secondaire privée et qui offre un programme à haut potentiel. Bonjour, Mme Bruneau.
Bonjour, M. Lacroix.
Alors, expliquez-nous d'abord, qu'est-ce que c'est la douance?
Mais la douance, M. Lacroix, avec tout, je vous dirais, l'imprécision que l'on peut avoir, là, parce que je suis pas une spécialiste, une chercheure dans le domaine, mais bien une praticienne, là, je vous dirais que la douance, c'est souvent lié à une question de... au premier abord de performance, oui, scolaire, de potentiel intellectuel, mais on s'entend que ce n'est pas qu'une question de potentiel intellectuel. On parle aussi d'un potentiel qui est un potentiel créatif, qui est un peu santé, un potentiel au niveau perceptuel. Mm-hmm. Ça prend aussi un espace dans l'interpersonnel aussi. Donc, c'est vraiment un portrait très, très large où est-ce que les enfants, les adultes vont se démarquer d'une façon très particulière dans certaines sphères, dans plusieurs, des fois dans une seule aussi. Là.
Ouais. Donc, c'est des enfants qui ont davantage de capacités naturelles là, à apprendre les choses. Souvent, ils vont plus vite que les autres. Là.
Bien, c'est ce qu'on voit beaucoup, effectivement. Là. Au niveau d'une classe, on va voir des enfants qui peuvent aller plus rapidement, qui savent, qui connaissent, qui ont un très, très grand bagage de connaissances, des intérêts très diversifiés, très poussés.
Oui.
Mais en même temps, dans une classe, c'est pas nécessairement nos élèves les plus performants. Et c'est ça qui, parfois, dans une école, va attirer le regard parce qu'on s'attend que les enfants qui ont de très, très grosses notes, soient doués. Mais en fait, souvent, il y en a là-dedans qui sont talentueux, qui travaillent très, très fort pour obtenir ces résultats scolaires-là.
Ouais.
Et qu'on va avoir des enfants qui peut-être réussissent un peu moins bien et qui sont pourtant très, très doués aussi,
ouais.
qui ont un très grand potentiel, mais qui, parce que justement, parfois, ils s'ennuient à l'école, qu'ils ont tout compris.
Ils sont démotivés.
Mais il y en a certains, parfois, effectivement, ouais. quand on n'arrive pas à les alimenter, qui peuvent se démotiver, okay. qui peuvent un peu partir dans la lune, qui ouais. peuvent un peu décrocher, puis à ce moment-là, mais on ne peut pas parler de résultats scolaires de haut niveau, là.
Bon, ça soulève plusieurs questions. D'abord, est-ce que nos écoles sont adaptées à ces enfants-là? Parce que la façon dont fonctionnent, entre autres, nos écoles publiques, c'est pour des enfants qui ont un apprentissage normal, finalement, là, puis tout est fait en fonction d'eux autres. Puis on a des services pour eux autres, etc. Mais quand tu as des enfants qui sortent du lot un peu, soit qui ont besoin de services davantage parce qu'ils ont des difficultés, souvent, c'est difficile d'avoir les... Et à l'opposé, ceux qui sont plus doués que les autres, généralement, il n'y a pas de service pour ces enfants-là non plus, hein?
Mais en fait, c'est que je pense que peu importe le spectre où on se trouve, donc à quelle extrémité du spectre des besoins particuliers on se trouve, je pense que les enfants, ils ont quand même besoin d'un service. Ça ne sera pas le même service pour un enfant qui présente des difficultés d'apprentissage, qui a peut-être ouais. besoin d'orthopédagogie, etc., que d'un enfant qui a des besoins, qu'on le nourrisse, qu'on l'alimente, donc qui, à ce moment-là, est dans la classe et qui va proposer un défi à son enseignant de différenciation pédagogique, de pouvoir travailler dans cette direction-là. Je vous dirais, autant au public, dans le système public qu'au système privé, je vous dirais, le défi, il est là pour tous les enseignants d'alimenter ces enfants-là.
Est-ce qu'ils sont faciles à identifier? Est-ce que les enseignants savent tout de suite qui ils sont?
Non, c'est pas si facile que ça à identifier parce que ce que l'on va voir, mais il y a même une différence entre les filles et les garçons. On sait tous que les filles dans une classe un peu plus conformiste, on voit souvent les filles un peu plus, je vous dirais là, au niveau vraiment conformiste. Là, on va moins les voir sortir alors que les garçons, souvent, il y a plus de manifestations externalisées, là, de comportements qui vont nous déranger. On va les voir plus dans la lune, peut-être un peu plus en opposition. Ce qui fait que la raison pour laquelle souvent on va parler aux parents ou qu'on va dire, écoutez, on a peut-être quelque chose qui est en dessous puis pour lequel on aimerait ça investiguer, bien souvent, ça ressemble plus à un déficit d'attention, à un trouble d'opposition. Et là, quand on part en évaluation ou en investigation, bien, ils nous reviennent avec une identification de haut potentiel.
Ouais.
Donc, c'est plus difficile. On peut pas mettre le doigt encore, je dirais, les grilles d'observation, elles sont encore en construction. Il y a des très beaux travaux qui se font par le professeur Massé, par le professeur Gagné antérieurement, sur ces grilles d'observation-là, mais c'est pas quelque chose qui est encore très, très répandu dans le système scolaire.
Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là actuellement? Généralement, ce qu'on entend, c'est qu'on leur fait sauter une année, là.
Ben, c'est la façon facile, je vous dirais.
Mais c'est ça, j'allais dire, est-ce que c'est vraiment leur rendre service?
Mais je vous dirais, chez les plus petits, parfois, c'est on va commencer par faire de l'enrichissement. On va faire de l'accélération de parcours scolaire. À un moment donné, dans certaines écoles, c'est plus simple au niveau organisationnel de faire sauter une année. Par contre, à un moment donné, c'est que ce qui arrive, c'est qu'on peut pas, en tout cas, moi, de mon expérience, quand on arrive à faire sauter une deuxième année scolaire, il y a un écart qui se creuse au niveau
de l'âge et de la maturité.
Exactement. On n'a pas les mêmes préoccupations. Je peux avoir 14 ans avec des enfants qui ont 16 ans. J'aurais pas du tout les mêmes préoccupations au niveau de la classe, au niveau de ce qui m'intéresse. Donc, il y a un écart qui se creuse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces enfants-là? Je vous dirais, oui, c'est d'abord et avant tout de la différenciation. Les recherches qu'elles démontrent, c'est que dans les pratiques qui sont efficaces, oui, il y a de l'accélération, d'où le fameux saut d'année. Il y a le fameux, ce qu'on appelle le compactage, d'être capable de ramasser les contenus d'une façon beaucoup plus compacte dans une année scolaire pour permettre après à ces enfants-là de faire des projets personnels, de s'investir dans des tâches complexes, des choses comme ça. Puis il y a toute la question de l'enrichissement de programmes, de volets complémentaires, de défis qu'on peut leur proposer.
Mais on entend souvent les parents de ces enfants-là dire que ils se trouvent un peu orphelins jusqu'à un certain point parce qu'ils n'ont pas de service pour leurs enfants, dans l'école publique en tout cas. Est-ce que la solution, c'est de les envoyer dans le privé où souvent ils vont peut-être trouver davantage de défis?
Mais en fait, je pense que ce soit au public ou au privé, il existe des programmes enrichis, il existe des voies où est-ce que il y a une couleur qui va passionner ces enfants-là. Quand on vieillit à l'adolescence, je vais prendre l'exemple de l'académie, j'ai des élèves à haut potentiel qui ne sont pas dans le programme à haut potentiel parce que leur intérêt n'est pas en sciences, n'est pas en maths. Ils en mangent, ça apprend très, très rapidement. Mais je pense à une jeune fille qui, elle, est dans le programme de danse parce que ce qui la fait vibrer, bien, c'est la danse et elle s'éclate de ce côté-là, elle se réalise là. Donc, l'important, c'est souvent de se trouver une passion, un champ d'investissement. Donc, je pense que toutes les écoles au Québec peuvent offrir à ces enfants-là une voie qui est à ce niveau-là. Je pense que pour ces enfants-là, ce qu'ils ont besoin, c'est d'un tuteur, d'un mentor qui va être à côté d'eux pour être capable de cibler des besoins, cibler des stratégies qui fonctionnent pour eux, pour leur permettre d'avoir du plaisir dans une école, d'apprendre, de s'épanouir puis de se développer.
Est-ce qu'on est en retard au Québec par rapport à cette réalité-là des enfants doués? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont bien en avance sur nous, qui ont des programmes mieux adaptés?
Mais je vous dirais qu'effectivement, la recherche, quand on cherche à se renseigner au niveau de la douance, on est beaucoup du côté des Américains avec toute la théorie des gifted students. On va être beaucoup un peu quand même aussi du côté un peu européen. Est-ce qu'on est en retard au Québec? Peut-être un peu. Je vous dirais que l'Alberta, entre autres, a de très, très beaux programmes. Nous, quand on a monté le programme à l'Académie, c'est vraiment de ce côté-là. On est allé voir en Alberta, on est allé voir au niveau des États-Unis parce que la théorie, les modèles qui sont là donnent de très, très belles idées.
Est-ce que ce sont des enfants qui sont plus à risque, j'allais dire, de décrocher? Parce que justement, à un moment donné, quand tu trouves que l'école est pas suffisamment stimulante, que tu t'emmerdes, que tu donnes pas ton plein potentiel, tu viens qu'à trouver ça plate, là, à l'école. Puis éventuellement, tu peux dire, ben moi, je vais aller faire d'autres choses ailleurs, tu sais.
Oui, ben effectivement, ils sont potentiellement un peu plus à risque de décrocher. Ce que la recherche démontre, c'est qu'il y a 6 profils d'élèves doués, et parmi ces 6 profils-là, il y a effectivement le profil un peu plus décrocheur du fait que effectivement, on trouve le temps long, qu'on n'apprend pas, que le système scolaire, on a l'impression que ça sert pas à grand chose et qu'il ne nous alimente pas. Ouais. Et il en reste qu'il y a 5 autres profils aussi à côté de ça, donc ce n'est pas le seul profil que l'on peut avoir d'enfants de ce type-là.
Qu'est-ce que vous espérez du colloque aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez que ça va amener une plus grande sensibilisation à cette réalité-là?
Exactement, une plus grande sensibilisation du milieu, d'un échange d'idées, je pense, entre les chercheurs, entre les praticiens, entre les gens qui sont sur le terrain avec ces enfants-là, puis avec les parents. Parce que je pense que plus l'école et la famille, avec le réseau universitaire, sera en lien réseauté et bien arrimé, je pense qu'on va voir progresser les pratiques pédagogiques et donc le support aux enfants doués.
Bon, alors, ça va se dérouler comment aujourd'hui? Là, il va y avoir, comment ça fonctionne? C'est des gens qui vont venir faire des présentations, présenter des mémoires?
Mais en fait, aujourd'hui, c'est conférence d'ouverture avec le professeur Massé, qui est une chercheure dans le domaine de la douance ici à l'UQTR et qui a ouvert pour, avec sa chaire de recherche, a ouvert un MOOC en formation continue pour l'ensemble de la profession éducative. Donc, hyper intéressant sur la douance, mais elle vient expliquer et chercher à faire comprendre aux gens comment est-ce qu'on peut effectivement dépister ces enfants-là. Qui sont-ils? Comment peut-on travailler? Par la suite, il y a une série d'ateliers qui vont autant dans l'information, dans la formation, dans le partage de pratiques. Et puis, il y a rencontre avec des enfants doués, il y a rencontre avec des enseignants qui enseignent à ces enfants-là. Ouais. Et en fin de journée, il y aura panel là, pour faire un tour des questions amassées au courant de la journée.
Bon, ben en tout cas, on vous souhaite que le message soit entendu. Là, ça prend davantage de ressources et peut-être des programmes mieux adaptés à ces enfants-là. Et, écoutez, c'est un potentiel extraordinaire qu'on exploite peut-être pas suffisamment, en tout cas pas à leur juste valeur.
Effectivement, parce que ces enfants-là, ils sont un très, très beau moteur dans une école. Ils ont des idées, ils ont un savoir. Quand ils se mettent à travailler avec les autres au sein d'une classe, ça attire les autres vers le haut. Ça permet d'enrichir les conversations. Ils sont vraiment de très, très beaux apports dans nos écoles, ces enfants-là.
Madame Bruno, merci beaucoup et bon colloque.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous.
Au revoir, Isabelle Bruno, et directrice des services pédagogiques à l'Académie Sainte-Thérèse, une école primaire secondaire privée qui offre le programme Haut Potentiel. Donc, quoi faire avec ces enfants doués qui ne correspondent à aucun programme dans les écoles publiques qui sont faits généralement pour la moyenne? Tu sais, ben voici, un enfant, ça devrait être ça, puis on fait le programme pour eux autres. Alors, si t'es plus avancé, si tu es plus rapide que les autres, ben il faut que tu te ralentisses pour prendre le pas des autres. Il faut toujours marcher selon le plus lent possible. T'sais. Alors, est-ce qu'il y a possibilité d'essayer justement d'exploiter le potentiel de ces élèves-là au maximum? Je veux juste vous faire part d'une communication qu'on a reçue au cours des dernières minutes. La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce qu'elle va augmenter sa participation dans le Cirque du Soleil dans le cadre de la transaction qui est annoncée. La Caisse rachète la participation de Guy Laliberté, le fondateur du Cirque du Soleil. Il reste toutefois impliqué dans le processus créatif, dit-on, de l'entreprise et va conserver des intérêts économiques. Mais à l'issue de cet investissement, la Caisse de dépôt va détenir 20% du Cirque du Soleil. Alors, donc, ce qu'on dit dans le communiqué, nous sommes heureux de renforcer notre présence dans l'actionnariat, etc. Mais donc, on a décidé d'y aller dans une entreprise qui a été fondée au Québec, à Baie-Saint-Paul, à l'époque, avec les échassiers, Guy Laliberté, puis tout ça, qui était considéré, qui crachait du feu, là. Buvait du pétrole, puis crachait ça, là. Puis, tout le monde disait, ben oui, non, ça ira nulle part, cette affaire-là. Alors, finalement, le Cirque du Soleil est l'une des plus importantes, sinon la plus importante entreprise culturelle qui a été fondée au Québec. On ne dit pas cependant la hauteur de la transaction, là, combien valent ces actions-là qu'on a rachetées. Donc, on aura peut-être plus de détails un peu plus tard. Mais donc, mentionnons là que la Caisse de dépôt devient actionnaire à 20% de Cirque du Soleil en achetant les actions de Guy Laliberté. On fait une brève pause, on vient tout de suite après. Restez là.